RFI minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous. Une demi-heure d'information consacrée à l'actualité française, c'est 24h en France.
Christophe Paget.
À la une, les prisons de France à nouveau visées la nuit dernière. Le président Emmanuel Macron promet que les coupables seront retrouvés, jugés et punis. L'ex-président François Hollande veut créer un statut spécifique de réfugié scientifique. Objectif, attirer en France les chercheurs américains menacés par l'administration Trump. Nous irons dans le sud de la France, à l'université d'Aix-Marseille, qui a lancé il y a un mois un appel pour accueillir des scientifiques américains et qui a déjà reçu beaucoup de réponses. Le Vatican était au courant dès l'automne 1955 des agissements de l'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle. C'est ce qu'affirme un livre-enquête qui paraît demain, à suivre la correspondance d'Éric Sénanc.
24h en France.
Dans une douzaine de minutes, nous irons au cinéma pour une comédie, Le mélange des genres de Michel Leclerc, le réalisateur d'un gros succès il y a 15 ans, Le nom des gens, souvenez-vous. Et puis le Conseil Santé se penche sur la haine, qui prend de plus en plus de place dans notre société, entre violence des réseaux sociaux et opinions politiques clivantes.
RFI.
L'institution pénitentiaire de nouveau ciblée la nuit dernière, cela dure depuis dimanche. Trois véhicules ont été incendiés dans un parking de la prison de Tarascon dans le sud du pays et un autre véhicule appartenant à un surveillant de la prison d'Aix-Luynes a été incendié devant chez lui. Sur le réseau Telegram, un groupe revendiquant la défense des droits des prisonniers français a publié une vidéo montrant un agent pénitentiaire et un véhicule en feu, le tout accompagné de menaces. Dominique Gombert est secrétaire général adjoint du syndicat FO Justice. Il s'inquiète pour les agents pénitentiaires et appelle à la vigilance.
On monte crescendo, on voit que on était sur des établissements et on a l'impression que ça se dépasse, où on cible carrément des personnels à leur domicile et donc qui vont impacter sur la famille. Oui, c'est inquiétant. Les manœuvres, déjà, c'est ce qu'on essaie d'expliquer au quotidien, hein, d'être le plus discret possible sur notre profession, d'éviter au maximum d'être reconnu. Maintenant, vous savez, c'est très facile de suivre des personnels qui sortent d'un établissement, de les suivre en voiture et de retrouver leur adresse et leur domicile.
Dominique Gombert, joint par Tanita Fallet, sur le réseau social X, le président Emmanuel Macron a promis que les personnes qui cherchent à intimider les agents pénitentiaires et qui s'attaquent avec une violence inadmissible aux prisons de France seront retrouvées, jugées et punies. La France a démontré sa capacité à répliquer sans hésiter et avec fermeté face à l'Algérie, mais elle devra à terme reprendre le dialogue avec Alger dans l'intérêt des Français. C'est ce qu'a estimé aujourd'hui Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. Les relations entre la France et l'Algérie sont à nouveau mal en point. L'Algérie avait annoncé, vous le savez, l'expulsion de 12 agents consulaires français. Hier, la France a fait de même. Le président Emmanuel Macron a aussi rappelé l'ambassadeur français en Algérie. Alors, côté français, quelles sont les réactions politiques? Charlotte Urien-Tomaca.
Pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, porte-voix ces derniers mois d'une ligne de fermeté face à l'Algérie, notamment en matière migratoire, la réponse française lui paraît totalement appropriée.
Il est inacceptable, vraiment inadmissible, que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens.
Le ton est ferme également du côté de la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
C'est bien regrettable car nous étions partis sur une relation un peu plus apaisée, un peu plus constructive et j'appelle de mes voeux que cette relation redevienne constructive.
À gauche, on déplore la surenchère. Arnaud Le Gall, député La France Insoumise.
Il est urgent que le dossier soit repris en main au sommet des deux États et d'en finir avec cette logique de l'escalade où à une provocation répond une autre.
Pour le Rassemblement National, la réponse française est trop tardive. Fabrice Leggeri, eurodéputé RN.
Le président Macron a toujours eu une attitude de faiblesse vis-à-vis du pouvoir algérien. La seule attitude efficace vis-à-vis du pouvoir algérien, c'est ce que préconise le Rassemblement National, c'est de la fermeté.
Et malgré cette soudaine rechute, l'Élysée estime, je cite, que l'intérêt même de la France et de l'Algérie était de reprendre le dialogue, exhortant Alger à faire preuve de responsabilité.
Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre a reçu à Matignon cet après-midi le comité de soutien de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie. Une situation insupportable, a insisté François Bayrou. Emmanuel Macron recevra, lui, demain, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, ainsi que l'émissaire spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff, qui était attendu ce mercredi à Paris. Ils doivent avoir des discussions avec leurs homologues européens pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. François Hollande veut créer un statut spécifique de réfugié scientifique. L'objectif pour l'ex-président, c'est d'attirer en France les chercheurs américains menacés par l'administration Trump. Et pour cela, François Hollande vient de déposer sa première proposition de loi depuis qu'il a retrouvé un siège de député. De fait, censuré, privé de subventions et réduit au silence, des dizaines de scientifiques américains songent à quitter leur pays. Et avant même que les politiques français ne s'emparent du sujet, dans le sud du pays, l'université d'Aix-Marseille a lancé le 6 mars dernier un appel « Safe Place for Science », invitant les chercheurs d'outre-Atlantique à poursuivre leurs travaux en France. Ce qui a suscité beaucoup de demandes. Correspondance Elisa Amouret.
En un mois, l'université d'Aix-Marseille a reçu plus de 300 candidatures de chercheurs américains.
On a instantanément été débordés.
Éric Berton, président de l'université Aix-Marseille, à l'origine du projet.
Beaucoup de scientifiques ont candidaté parce qu'ils étaient vraiment empêchés dans leur recherche sur les ARN messagers, l'épidémiologie, la cancérologie.
La faculté veut accueillir entre 15 et 20 scientifiques pendant 3 ans.
On a et on va identifier un nombre de chercheurs qui sont susceptibles de correspondre les mieux au laboratoire d'Aix-Marseille Université. Et puis on va croiser ça avec aussi l'examen de leur situation finalement. Est-ce qu'ils sont licenciés? Est-ce qu'ils sont empêchés? Est-ce que leur thématique n'est plus financée?
Mais dans les locaux des syndicats d'Aix-Marseille, le budget de 15 millions d'euros dégagé pour accueillir les chercheurs américains fait grincer des dents. Bruno Pouvel, représentant CGT.
C'est super, mais ça étonne. Non seulement ça étonne, mais il y a aussi beaucoup de collègues qui, au quotidien, sont dans la galère financière.
Les premiers scientifiques américains sont attendus dans la cité phocéenne à partir du mois de juin. Elisa Amourette, à Marseille, pour RFI.
On va maintenant se pencher sur cette pénurie de médicaments en France, une pénurie de psychotropes dénoncée par 4 psychiatres dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde. Selon eux, la production de certaines molécules ne serait pas assez rentable pour les labos pharmaceutiques qui quittent le marché français. Et ces problèmes d'approvisionnement peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les patients, d'autant qu'elles touchent plusieurs spécialités médicales. Christine Beer est pharmacienne à Paris.
Toutes les classes de médicaments y ont eu droit. On a eu des antidiabétiques, des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Enfin, toutes les classes avaient été très compliquées. Et c'est vrai que depuis début 2025, on a des problèmes d'approvisionnement dans certains psychotropes, en particulier la quétiapine qui est en rupture là depuis 2 mois, je dirais. C'est un neuroleptique et qui est très utilisé en psychiatrie. Et avec une très grosse rupture de stock, on a également des ruptures sur certains antidépresseurs, en particulier la sertraline et la valinfaxine, qu'on a beaucoup de mal à avoir. Alors on n'est pas à stock 0-0, mais on est à stock très 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 tendu. On n'arrive pas à répondre à toutes les demandes d'ordonnance.
Christine Beer, jointe par Laurence Théo. Et puisqu'on parle santé, sachez qu'en France, l'hiver aura été marqué par une épidémie de grippe particulièrement sévère. Près de 5000 personnes en sont mortes et 30 000 ont été hospitalisées. Majorité des plus de 60 ans, mais aussi une part élevée d'enfants par rapport aux autres années. Pour expliquer ce fort impact de la grippe, Santé publique France évoque la circulation simultanée de 3 souches virales, une couverture vaccinale insuffisante et une efficacité du vaccin faible à modérée chez les plus de 65 ans. Le Vatican était au courant dès l'automne 1955 des agissements de l'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle. C'est ce qu'affirme l'abbé Pierre, La fabrique d'un saint, un livre-enquête qui va paraître demain en France. Écoutez à Rome la correspondance d'Éric Sénanc.
C'est l'une des révélations de ce livre-enquête. Les méfaits de l'abbé Pierre étaient connus du Vatican depuis 70 ans. Les deux auteurs de l'ouvrage révèlent en effet une archive consultée le mois dernier au Dicaster pour la doctrine de la foi. Un document révèle que le Saint-Office, l'ancien nom de ce dicaster chargé de juger les causes les plus graves dans l'Église, comme les agressions sexuelles, faisait état d'alerte dès 1955, envoyé à Rome par des cardinaux canadiens et américains sur les agissements sexuels problématiques du prêtre français. Monseigneur Léger, l'archevêque de Montréal de l'époque, et où l'abbé Pierre a séjourné en mai 1955, a eu connaissance des accusations d'immoralité à l'encontre du prêtre, révèlent les archives vaticanes. Un autre prêtre écrit aussi au Saint-Office la même année pour se plaindre de choses immorales commises par l'abbé Pierre aux États-Unis. Ces révélations jettent la lumière sur la culture du secret qui reste la règle au Vatican, malgré la volonté du pape de faire progresser l'Église dans la lutte contre les abus. En septembre dernier, François avait admis que le Vatican était au courant depuis des années des agressions sexuelles du fondateur d'Emmaüs, sans être sûr que ce soit avant sa mort, survenue en 2007. Le livre, qui paraît ce jeudi, apporte une réponse cinglante. Éric Sénanque, Rome, RFI.
Et selon les autrices du livre, la Curie romaine avait lancé une procédure qui a été freinée par les évêques en France, refermée et enterrée 2 ans plus tard. On en avait parlé sur cette antenne, Mounir Bouta avait été condamné le 28 mars dernier à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour avoir brûlé vive son ex-épouse, Chanine Daoud. Eh bien, Mounir Bouta a fait appel de sa condamnation et il sera rejugé devant une cour d'assises d'appel, c'est ce qu'a indiqué son avocate. Quant à l'humoriste Pierre Palmade, il est sorti de la prison dans laquelle il était incarcéré depuis 4 mois après avoir provoqué un grave accident de la route. Il poursuivra sa peine de 2 ans de prison ferme à son domicile sous bracelet électronique. RFI, minuit 10 à Paris.
24 heures en France. Christophe Paget.
C'est mercredi, jour des sorties cinéma dans l'Hexagone, et RFI vous propose, histoire de se changer un peu les idées, d'aller voir une comédie, Le mélange des genres. C'est le nouveau long-métrage de Michel Leclerc. Alors Michel Leclerc, c'est lui qui avait réalisé il y a 15 ans Le nom des gens, une comédie politique sur la gauche française qui avait été un très grand succès. Cette fois, dans son nouveau film, on parle féminisme. Michel Leclerc, au micro de Sophie Torlotin.
Michel Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Dans Le mélange des genres, vous prenez à bras-le-corps, 8 ans après le mouvement MeToo, hein, la question du féminisme, peut-être aussi du masculinisme, dans une comédie policière où on voit une femme flic, Léa Drucker, infiltrée un groupe de féministes qu'elle soupçonne de complicité de meurtre. D'où vous est venue cette idée qui est quand même assez gonflée?
Bah, en fait, voilà, je suis comme tout le monde traversé par le mouvement MeToo depuis plusieurs années, et en particulier à la place où je suis, qui est celle d'un réalisateur de plus de 50 ans, etc. Et donc, j'avais besoin, d'une certaine manière, de clarifier mes pensées, qui étaient parfois un peu confuses et contradictoires, à travers une fiction. Et je me suis dit, bah, comme mon moyen d'expression naturelle, c'est la comédie, j'ai envie vraiment de faire une fiction autour de ces sujets et autour de personnages différents qui pensent des choses différentes, mais tout autour de la question du féminisme.
Quelqu'un parmi nous les a prévenus.
Attends, genre quoi, il y a une taupe là ?
Tolérance zéro pour les balances.
Tu peux nous dire où t'étais hier ?
J'ai déposé plainte contre mon violeur.
Il est là, debout, au bar, là.
Simone, donc Léa Drucker, va faire une rencontre fortuite. En fait, elle va, pour se sortir d'un mauvais pas, accuser faussement de viol un homme qui est un comédien joué par Benjamin Laverne.
Oui.
Ça ne vient pas tout de suite, mais c'est un ressort important du film.
Oui.
Tout en précisant, et il faut le dire, que dans votre film, vous précisez que les fausses accusations de viol ne concernent que 2% des
oui,
affaires.
Oui, absolument. Mais pour moi, la fiction, elle est là pour essayer de voir l'improbable, enfin. Et surtout, cette accusation en soi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle produit. Comment mes personnages principaux réagissent, comment ça fait bouger leur ligne, comment cette flic, qui au départ n'est pas du tout féministe et qui est même plutôt hostile aux idées du collectif qu'elle infiltre, va à l'occasion de cette accusation progresser dans ses idées et même avoir les yeux dessillés sur sa propre situation, dans sa famille, dans son métier. Et c'est ce qui provoque cette évolution du personnage. Et de la même façon, ce personnage de Benjamin Laverne, qui se dit déconstruit et qui est en fait un petit peu dépressif, à l'occasion de cette accusation, va bouger aussi sur ses lignes. Et ce qui m'intéresse, c'est pas l'accusation en soi, c'est comment il bouge de leur ligne.
Je vous préviens, il se passera rien entre nous.
Non, non, bien sûr que il se passera rien. Il se passe jamais rien avec moi. C'est même ma première qualité.
Michel Leclerc, vous avez projeté votre film Le mélange des genres un peu partout en France. C'est un film qui fait débat.
Oui, ben, très souvent, le débat s'enclenche à la fin du film et à la limite, j'ai plus besoin de parler. C'est plutôt les femmes qui réagissent ou qui prennent la parole après le film. Ben, moi, je suis très content de ça. Je pense que si un film, quel qu'il soit, déjà, si on passe du bon temps à le voir, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est si un film suscite du débat, ben, moi, j'ai l'impression d'avoir gagné mon pari. La fiction, elle est là pour ça.
Michel Leclerc, merci.
Merci à vous.
Michel Leclerc, réalisateur du Mélange des genres avec Sophie Torlotin. On va maintenant s'intéresser à un mouvement inédit au sein de l'Église catholique. Pendant toute la durée du carême, c'est-à-dire du 5 mars au 17 avril, les paroissiennes sont appelées à faire grève. Parti des États-Unis, le mouvement a trouvé un écho en Espagne, en Pologne, en Inde, mais aussi en France. L'intérêt de cette mobilisation symbolique, c'est de pointer un paradoxe. D'un côté, ces femmes bénévoles sont indispensables à la tenue des églises et à la préparation des messes notamment. De l'autre, elles sont encore trop peu consultées dans les instances ecclésiastiques dirigées par des hommes. Baptiste Coulon s'est rendu dans le petit village de Saint-Sauvent, en Charente-Maritime. C'est dans l'ouest de la France.
Elle nous porte tous dans le village, elle veille sur nous, elle est imposante, elle est grande, elle est massive, elle a une présence et voilà, je suis bien avec elle.
Cela fait 40 ans que Florence est paroissienne dans l'église de Saint-Sauvent. 40 années d'un service essentiel pour maintenir quelques messes tous les ans.
Nous sommes des petites mains, ça veut dire faire toutes les petites tâches, les petites besognes, les petites choses ennuyeuses aussi, mais qui sont nécessaires quoi. Laver les nappes, les repasser, les mettre sur l'autel, faire les bouquets.
C'est un travail qui demande du temps, j'imagine, et de l'énergie.
Oui, mais on est, je suis pas toute seule. Hein. On a un bon groupe. Hein.
Mais ce sont souvent des femmes qui s'y collent.
Ce sont des femmes, absolument. On voudrait que ça change, ça c'est sûr. Moi, je soutiens totalement les femmes qui décident de dire partageons plus les tâches. Voilà.
Florence n'a pas officiellement rejoint le mouvement, contrairement à Alice, elle aussi paroissienne. Sur son sac, un petit pins, femme catholique en grève, elle dénonce l'absence de consultation dans les assemblées locales et les diocèses.
On vient nous demander notre avis de temps en temps ou des conseils, mais on ne peut pas voter, on ne peut pas choisir. Si un jour quelqu'un dans la hiérarchie est contre nous ou nous refuse quelque chose, on n'a pas de recours possible. Évidemment, les décisions se prennent entre clercs, entre prêtres. Quand on veut exprimer quelque chose, on est un petit peu relégué à l'arrière-boutique, quoi.
Dans ce village de 500 habitants et aux alentours, la grève est accueillie de façon contrastée par les fidèles.
Certains ont ri en disant « oui, c'est pas demain que vous changerez le monde ».
Partagez aussi les membres du clergé, à quelques exceptions.
Je m'appelle Gilles et je suis diacre depuis 11 ans.
Dans cette paroisse, Gilles Cavaro est peut-être l'un des rares à porter une autre parole, celle d'un homme d'église qui prône l'égalité.
Le Christ voulait que les femmes aient plus de place dans l'église et qu'actuellement l'église est plutôt en retrait par rapport à ce que lui a montré quand il a vécu sur cette terre. Je trouve que la place de la femme devrait être revisitée et ajustée au message évangélique.
Ce qui est drôle, c'est qu'avant la grève, j'aurais jamais pu penser vraiment que Gilles était pour cette ouverture. Ça fait plaisir d'entendre ça, mais c'est pas majoritaire.
Ouvrir le dialogue sur la place des femmes dans l'église, c'est tout l'intérêt de cette grève.
C'était une discussion qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'avoir et qu'on a pu avoir grâce à ce temps un peu de grève.
Même là, nous, dans la paroisse, on n'a pas beaucoup parlé. Hein, donc je pense qu'il serait mieux qu'il y ait encore plus de discussions par rapport à ça. Hein. Pour moi, la question principale, c'est comment travailler mieux ensemble, marcher ensemble vers le Christ. Donc hommes et femmes ensemble, et c'est important.
Le dialogue ouvert, Gilles, Alice et Florence promettent de le poursuivre bientôt autour d'un repas.
Un reportage signé Baptiste Coulon, RFI, minuit 18 à Saint-Sauvent, 20h18 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le journal des Outre-mer.
Saint-Pierre-et-Miquelon, où on a parfois le sang chaud, mais où on sait également pratiquer l'art du rebond et de la dérision. Benoît Ferrand, vous allez nous expliquer tout ça. Bonsoir.
Bonsoir. La proposition de Laurent Wauquiez d'un transfert des étrangers sous OQTF dans l'archipel a ainsi été récupérée, entre guillemets, avec humour. L'acronyme « obligation de quitter le territoire français » se transformant, par exemple, en « on quitte tout facilement » pour venir s'installer à Saint-Pierre, une stratégie revendiquée et assumée par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, Bernard Briand. Il est au micro d'Aldric Laïton.
Après les propos de Trump et surtout de Laurent Wauquiez, on est passé de la colère à une volonté de vouloir sortir par le haut, surtout sur une polémique qui ne volait pas haut, donc une campagne de communication, puisqu'on a fait l'objet sur les médias nationaux surtout et internationaux d'un focus particulier. Donc on a souhaité lancer une campagne de communication pour rappeler que c'était pas le bagne à Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'on y vivait bien. Donc on a voulu stratégiquement bien sur le sigle OQTF, le décliner et mettre en avant l'atout du territoire. Parce que quand Laurent Wauquiez dit bah, il pleut, il fait son 46 jours de pluie, 5 degrés, je crois que le monsieur n'a pas tout compris. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il s'agit d'une riposte positive et puis surfer un petit peu sur la vague de la médiatisation du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, et ça participe bien entendu aux enjeux liés à l'attractivité pour résoudre eh bien cette équation particulière de la démographie avec une population qui est vieillissante et avec des jeunes que l'on souhaite revenir du territoire et celles et ceux qui pourraient venir s'y installer et répondre aux enjeux de nombreuses entreprises.
À l'île de la Réunion, les derniers chiffres de l'épidémie de chikungunya, communiqués ce mercredi par Santé publique France, sont plutôt encourageants, et c'est évidemment une bonne nouvelle. Alors que le pic épidémique ne serait pas encore atteint, le nombre de cas semble refluer. Lise Dumont.
Les investigations démontrent qu'entre le 10 et le 30 mars, 4 cas supplémentaires apparaissent comme étant liés au chikungunya, ce qui porte à 6 décès le bilan actuel. Les personnes identifiées avaient toutes plus de 70 ans et présentaient des comorbidités. Plusieurs autres décès sont toujours en cours d'investigation. Les autres chiffres rapportés par Santé publique France semblent indiquer que la vague épidémique reflue. Il faudra 2 semaines d'observations supplémentaires pour confirmer ou infirmer le passage du pic épidémique. Dans l'attente de la consolidation des chiffres par l'ARS, le nombre de cas signalés semble en baisse sur la majorité des communes. Il s'établit à 4913 cas signalés en une semaine. Le nombre de consultations en ville a également reculé d'environ 10%, avec malgré tout plus de 19700 consultations recensées par le réseau des médecins sentinelles. Les passages aux urgences régressent en moyenne, mais dans le détail, au CHU Sud, les passages aux urgences pour chikungunya baissent de 22%, tandis qu'ils augmentent de 24% au CHU Nord. Enfin, avec 750 à 400 nouveaux cas, ce sont les communes de Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre qui ont été les plus affectées par le chic en semaine 14.
En bref, un peu ça va, mais trop c'est trop. Victime collatérale d'un conflit social qui s'éternise en Martinique, les usagers des navettes maritimes qui relient Fort-de-France aux Trois-Îlets ont décidé de saisir la justice pour réclamer l'instauration d'un service minimum. Un référé devait être déposé ce mercredi auprès du tribunal administratif. On termine avec une animation inhabituelle en ce moment du côté de Wallis et Futuna. Une opération inter-armée, joliment baptisée la Croix du Sud, va en effet se dérouler dans quelques jours sur le territoire et les mouvements aériens et maritimes destinés à acheminer sur place les troupes et le matériel se succèdent. Reportage Sophia Taofi-Fenoua.
Dans cet avion-là, nous avons quelques premiers matériels. Le gros arrivera demain par bateau militaire sur le port. Des lits de camp essentiellement. Et demain, nous avons des tentes, tout le matériel de campagne qui nous permettra de pouvoir assurer l'hébergement pour toutes les troupes qui viendront ici.
Près de 400 militaires de 19 nations sont attendus sur Wallis et Futuna. Ces militaires auront du pain sur la planche pour que tout soit prêt avant le 22 de ce mois. Des militaires polyvalents pour réussir leur mission.
Essentiellement l'équipe de soutien, avec nous des personnels de la DIRISI qui va installer toute la partie informatique, la partie sanitaire avec une infirmière et un auxiliaire sanitaire, et puis mon équipe qui va commencer à déployer le matériel.
Demain, le capitaine Didier se rend également sur Futuna pour y décharger plus d'une tonne de bouteilles d'eau et une autre partie du matériel d'équipement.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Bonne soirée Benoît Ferrand. J'ajoute à ce journal de l'Outre-mer qu'on a appris ce soir qu'Emmanuel Macron allait effectuer à partir de ce lundi un déplacement à Mayotte pour faire le point sur la reconstruction de l'archipel qui a été ravagé par le cyclone Chido. Le président se rendra aussi à La Réunion où il va échanger sur les effets d'un autre cyclone, Garance, et puis évidemment sur l'épidémie de chikungunya. Direction ensuite Madagascar où il assistera au 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien. Le président ira aussi à l'île Maurice.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Le Conseil Santé se penche ce soir sur la haine. La haine qui semble être omniprésente dans notre quotidien. Il suffit de consulter les réseaux sociaux ou d'écouter des discours politiques très clivants. Alors, comment expliquer cette explosion de la haine depuis quelques années dans nos sociétés ? Caroline Paré en parle avec le docteur Gérard Apfeldorfer, psychiatre et psychothérapeute, membre de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive.
Docteur Gérard Apfeldorfer, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychiatre psychothérapeute. La haine peut-elle être considérée comme un symptôme de certaines maladies psychiques?
C'est une bonne question et beaucoup de psychiatres se la sont posée. Et la conclusion, finalement, la surprise générale d'ailleurs, c'était que c'est non. Il n'y a pas vraiment une... Par exemple, les terroristes, hein, il y a eu beaucoup d'études faites sur les terroristes, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas de maladie mentale. Ils étaient tout à fait banals sur le plan psychiatrique, psychologique. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils avaient quand même un profil particulier dont on peut parler, avec un certain nombre de points de reconnaissance qu'on peut repérer, mais ça n'est pas une maladie mentale.
Quand on parle, par exemple, d'un psychopathe qui peut être animé par une haine intense, est-ce que ça fait partie du schéma de la maladie quand même?
Alors les psychopathes, c'est encore autre chose. Ils ne sont pas toujours haineux, les psychopathes. C'est pas quelque chose qui les prend en définitive. Ils sont plutôt dans l'expérimentation de ce qu'ils font vis-à-vis des autres. Et en fait, ils prennent plaisir à la souffrance des autres. On s'est aperçu sur le plan neurophysiologique qu'on pouvait repérer les psychopathes justement parce que là où l'être humain habitué, banal si vous voulez, ressent un grand malaise, eh bien, à la place, le psychopathe ressent du plaisir.
Merci docteur Apfeldorfer. Vous êtes l'auteur du livre « Pourquoi tant de haine ?» publié aux éditions Odile Jacob. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle de la leptospirose, une maladie bactérienne qui est surtout transmise par les rongeurs, notamment l'eau souillée par l'urine des rats. On retrouve la leptospirose partout sur la planète et nous allons parler de sa prévention mais aussi de son diagnostic, ses symptômes et les complications à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Caroline Paré.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
Et c'est bientôt la fin de 24 heures en France que vous pouvez évidemment, comme tous les autres journaux de RFI, retrouver sur notre site www.rfi.fr et sur l'application Pure Player. Merci à Fabrice Viollet à la réalisation, Charlotte Derouin à la rédaction en chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir. Avant cela, on part à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street
avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones se plonge de 700 points. Ce qui le ramène à 39 669, l'indice du Nasdaq dégringole de 516 points et atteint 16 307. Le secteur des semi-conducteurs plombe le Nasdaq. C'est la réaction à l'annonce de charges comptables par Nvidia, d'une part, et AMD, d'autre part, en raison d'interdiction d'exportation vers la Chine de leurs composants électroniques les plus compétitifs. Voilà qui amplifie les dégagements évidents hier après l'annonce par ASML d'incertitudes sur ses perspectives de vente du fait des droits de douane et autres barrières mises en place pour priver la Chine de machines nécessaires à la fabrication de composants électroniques ultra performants. Les cours de Nvidia et AMD plongent de quelque 9%, ceux de Broadcom et Qualcomm de quelque 3%. La baisse de Wall Street s'est intensifiée après le discours du patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, juge que les droits de douane envisagés par l'administration Trump dépassent les prévisions les plus extrêmes de la Banque centrale. Jerome Powell estime que leur mise en œuvre, même partielle, retarderait la maîtrise de l'inflation. Le patron de la Fed rappelle que sa mission est de faire en sorte que la poussée des prix provoquée par les droits de douane ne déclenche pas une dynamique inflationniste et qu'elle reste une simple poussée temporaire des prix. Il maintient que pour l'instant la Fed dispose de marge avant de modifier son taux directeur. Washington annonce de nouvelles sanctions frappant les importateurs chinois de pétrole iranien et du coup le baril américain de pétrole remonte de plus de 2%, l'euro grimpe à 1,1384. L'indice Dow Jones perd 1,7%, le Nasdaq décroche de 3,1%.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Namouri Dosso.
Macky Sall pourrait-il faire face à la justice sénégalaise? Un député a saisi le Parlement afin de poursuivre l'ancien président pour haute trahison. Après le scandale de la dette cachée, l'ancien dirigeant sénégalais doit-il rendre des comptes?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI 8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Demain.
Si le matin est un temps que nous partageons tous, nous ne sommes pas égaux face aux premières lueurs du jour. Entre injonctions sociales, contraintes, recommandations sur le sommeil, à quoi ressemble le matin des gens qui se lèvent tôt? Est-ce un moment magique ou contraignant et éprouvant?
8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.